Kiosque Magazine.
Jeudi 24 octobre, et ça me fait mal au foie de l'admettre, mais je vais le dire, je crois que l'automne a gagné cette fois. Ce matin, on gelait. Voilà, je l'ai dit, ça me fait mal au foie. Voilà. Avec vous pour la prochaine heure, et probablement plus de bonne humeur que moi, Éric de Belval et François Brodeur, moi-même. Donc, Éric, bonjour.
Bonjour François, j'espère que vous êtes quand même venu en moto.
Oui, bon. Oui, jusqu'à ce que l'hiver nous sépare. Qu'avez-vous prévu ce matin?
Alors, de démarrer avec un grain de sable dans l'engrenage. On va commencer par parler des ciments McInnis. Alors, où est-ce qu'on en est avec la cimenterie de Port-Daniel-Gascon? Elle semble pousser à vue d'œil. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise perspective? Parce que, franchement, entre création d'emplois, regroupement de familles industrielles et dégradation de l'environnement, le tout sur fond de contestation en matière de surproduction ou de concurrence avec les États-Unis, ben, c'est peut-être pas inutile de faire un bilan d'étape. Alors ensuite, je vous propose d'éteindre vos rêves. Enfin non, pas vos rêves, mais enfin le rêve américain. Il semble qu'il soit en panne. Si vous voulez que vos rêves se réalisent, ne dormez pas, dit un proverbe juif. Eh bien, nos voisins nord-américains ne nous donnent pas le sentiment d'être endormis. Hein. On ne peut pas leur faire ce reproche. Pourtant, leur rêve américain semble leur filer entre les doigts, devrais-je dire entre les nuits. On sait de quoi il est fait, du moins matériellement. Eh bien, c'est ce qui semble s'effriter. Et bien sûr, s'il n'y a plus d'American Dream, il n'y aura plus d'American Way. Reste à savoir s'il faut s'en inquiéter ou s'en réjouir. Et puis, on finira par la Chine. Ça fait un moment qu'on n'y a pas été. La corruption et le pouvoir, vous le savez, c'est un mariage d'amour. C'est ce que j'ai cru comprendre d'ailleurs en suivant les travaux de la commission Charbonneau. Bien sûr, il devient plus difficile de se draper dans l'horreur que peut inspirer la corruption ailleurs, puisqu'elle n'épargne pas le Québec. Alors, quid de la lutte anti-corruption? Personnellement, je trouve que sa répression n'est pas vraiment proportionnelle à son étalage chez nous. C'est pas mieux en Chine, mais après tout, ce qui compte, c'est de la dénoncer partout.
Et pour ma part, je vais commencer avec un sujet particulièrement rébarbatif, un sujet qui fait peur. Je vais vous parler de fiscalité. Pourquoi je vous parle de fiscalité? Eh bien, c'est qu'à Québec, les travaux de la Commission sur la révision des normes fiscales ont commencé pour savoir où on devrait taxer, comment on devrait taxer, et tout le monde y passe pour faire valoir son petit boniment en disant « je paye pour trop d'impôts, lui n'en paye pas assez ». On va voir de quoi il est question dans un texte du Devoir. Je vous parle également de Janet Yellen, la présidente de la Banque centrale des États-Unis, la Fed, qui a fait une sortie remarquée sur les inégalités, et je pense que ça mérite une répercussion, moi qui suis un fanatique du sujet. Et finalement, quand je veux me consoler, je vous parle d'auto, voilà. Et je vais vous parler d'auto, de normes de consommation et de tout ce qui progresse. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. Avertissement, le co-animateur qui va suivre est en français. Son opinion sur le béton et le ciment est fortement teintée de chauvinisme, puisque, je vous le rappelle, Ciment Lafarge est une société française, de même que sa principale compétitrice, qui a d'ailleurs été absorbée récemment.
Oui, mais François, j'ai laissé le chauvinisme en traversant l'Atlantique. Vous auriez dû vous en apercevoir, je m'étonne. Cela dit, il semble que quelques grains de sable se soient glissés, je le disais tout à l'heure, dans l'engrenage de la construction de la cimenterie McInnis, si vous m'autorisez à en parler. Hein.
Mais bien, bon, sûr, bien, sûr, de le faire. Bien sûr, c'est pour tomber dans le béton, allez-y.
Oui, d'accord. Ça a beaucoup intéressé Gilles Gagné dans Le Soleil, et on va voir c'est un peu ce qu'il en dit. Annoncé d'abord par l'ancien gouvernement du Parti québécois, puis reconfirmé en juin dernier par celui de Philippe Couillard, le projet de construction d'une cimenterie à Port-Daniel-Gascon, en Gaspésie, comme vous savez, pousse presque à vue d'œil. C'est marrant l'idée d'une cimenterie qui pousse. C'est peut-être un substitut écologique, je ne sais pas. Les travaux ont débuté en mai et se poursuivront jusqu'en août 2016, indique le PDG de Ciment McInnis, Christian Gagnon, au cours d'une entrevue accordée au Soleil. À partir de là, quand on dit accordée au Soleil, soyons clairs, il s'agit du journal. Hein, il ne s'est pas tourné vers les astres pour faire bénir sa cimenterie. À partir de là, une période de rodage s'amorcera. La première livraison de ciment par bateau vers la côte est des États-Unis se fera en octobre ou en novembre 2016, soit au moment où les analystes s'entendent pour dire qu'il y aura un manque de ciment sur le marché du nord-est de l'Amérique du Nord, notamment en raison du rebondissement de l'économie américaine. C'est ce qu'il faut remarquer là, c'est les analystes s'entendent. Qu'est-ce que c'est exactement que cette entente? Parce que certains disent que, bon, question surproduction, il y a aussi quelques éléments de réflexion. Estimé à 1,1 milliard de dollars, le projet devrait permettre la création de 2300 emplois par année durant la construction de la cimenterie sur un gisement de calcaire de haute qualité, dont 600 à 700 sur le site de Port-Daniel-Gascon. C'est une municipalité qui est située dans la baie des Chaleurs.
Ça ne va pas doubler la population, mais pas loin.
Oui. Une fois qu'elle sera pleinement en exploitation, L'usine produira annuellement 2,2 millions de tonnes de poudre fine qui, mélangée à du gravier, du sable et de l'eau, donnera le béton, le matériau de construction le plus répandu au monde. Elle procurera alors 200 emplois directs et autant d'emplois indirects. Simon McInnis évalue les retombées fiscales de son projet pour le Québec à 359 millions de dollars sur une période de 20 ans. Ça va être payant pour le Québec. La province va faire de l'argent, la Gaspésie va faire de l'argent, les investisseurs vont faire de l'argent. Nous aurons la capacité de faire du ciment à un coût plus faible que nos concurrents et de le vendre à des prix compétitifs dans un marché, celui du nord-est de l'Amérique du Nord, pour lequel la demande est forte. En 2007, les États-Unis ont importé 30 millions de tonnes de ciment. Alors, qui parle comme ça? Évidemment, c'est M. Gagnon. Ça ressemble un peu à de la propagande, mais ça n'en est sûrement pas. Et comment cette idée peut-elle me traverser la tête?
On a le droit de croire en son étoile.
Oui, d'accord. Alors, le soleil, l'étoile, on est vraiment dans le firmament. M. Gagnon qui roule sa bosse dans le monde du ciment depuis une quarantaine d'années. Derrière le projet de cimenterie, ah j'aime les phrases qui commencent par derrière, il y a le groupe Baudier, la société d'investissement des familles Baudouin et Bombardier. C'est à partir du moment où j'ai su que Laurent Baudouin tenait les guides du projet que j'ai pris le temps d'écouter l'offre d'emploi qu'un chasseur de tête me proposait pour construire et gérer une cimenterie en Gaspésie, évoque Christian Gagnon. Pour financer le projet, le groupe Baudier et des investisseurs privés québécois ont déposé 400 millions de dollars sur la table. S'ajoute un investissement de 100 millions de dollars de la Caisse des dépôts et placements du Québec en capital action. En accordant des prêts de 360 millions de dollars et 250 millions respectivement, un syndicat bancaire piloté par la Banque nationale et Investissement Québec viennent compléter la structure de financement. L'entrée en scène de Simon McInnis dans le marché nord-américain se fait dans un contexte particulier. D'abord, les cimenteries n'ont pas bonne presse. Énergivore, elles laissent une empreinte écologique importante. Construites pour la plupart il y a plus d'un demi-siècle, les usines sont désuètes. C'est surtout une industrie secouée par la fusion de deux des plus importants joueurs, signale Christian Gagnon. Holcim et Lafarge ont annoncé leur union. Précisons que Lafarge est en partie propriété d'une filiale de Power Corp qui est aussi propriétaire de Jesca et du Soleil. Encore le journal. Oui. Au Canada...
C'est la seule chose que Paul Desmarais a pas réussi à acheter, le vrai soleil.
Oui, 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 oui. Au Canada, pour obtenir le feu vert du bureau de la concurrence, le nouveau géant du béton devra se départir de certains de ses actifs. Il a été convenu qu'au Canada, Holcim allait vendre l'ensemble de ses propriétés. Alors comment une petite cimenterie qui produira 2,2 millions de tonnes de ciment par année peut-elle déranger à ce point deux multinationales qui en fabriquent 300 millions de tonnes? Avec notre usine à la fine pointe de la technologie dont l'empreinte écologique sera réduite au maximum, blabla, on recommence, nous détruisons à leurs yeux la valeur potentielle des actifs que Holcim doit vendre afin que la méga transaction soit acceptée au Canada, suggère qui ? Bah, le PDG de Simon McInnis. Christian Gagnon entend évidemment les complaintes des autres joueurs de l'industrie canadienne qui soutiennent que les cimenteries existantes ne fonctionnent qu'à 60% de leur capacité pour demander au gouvernement du Québec devrait retirer ses billes dans le projet de Port Daniel Gascon. Pour M. Gagnon, il n'y a pas de surcapacité de production. Les États-Unis ne parviennent pas à combler leurs besoins. Et au Québec, il y a des joueurs comme Beto Provincial, par exemple, qui importent leur ciment parce que les cimenteries d'ici vendent leurs produits trop cher. Si les cimenteries roulent à 60% comme elles le prétendent, c'est de leur propre faute, tranche Christian Gagnon. L'aubergiste Benoît Pilon voit une légère baisse d'achalandage depuis les dernières semaines. Ce fut tout de même un assez bon été, mais on sent un ralentissement d'activité prévu à l'échéancier dû au type de travaux, comme les solages, les coulages de ciment, l'excavation et le reste. Alors, on termine sur cette petite image comme ça, légère, de l'aubergiste qui attend les travailleurs. Mais quand même, tout ça est plein de contradictions, tout ça est un peu bizarre, on n'y retrouve pas ces petits, et ce qui sort surtout, c'est le rapprochement, en fait, des...
Mais en fait, le projet date de déjà un certain temps. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur qu'il a pris ces dernières années. Ouais. On a à peu près doublé la capacité de production prévue parce que le gisement de calcaire est là, mérite d'être exploité. Et il faut savoir que le béton de ciment, puisque c'est le nom du béton fait avec du ciment, le béton de ciment, il s'en consomme une tonne par habitant de la planète chaque année. C'est quand même impressionnant.
Oui, c'est colossal.
Pourquoi faudrait-il subventionner les tuques à pompons bleus? Vous me direz, c'est une étrange question, mais c'est aussi le titre d'un article du Devoir, un article de Sarah Champagne, qui rapporte les propos d'un homme d'affaires. Ça a été publié le 22 octobre 2014. Les PME réclament une baisse d'impôts et suggèrent de la compenser par une réforme des aides aux entreprises. Moins de subventions, moins de taxation, a revendiqué mardi matin la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante à la Commission sur l'examen de la fiscalité. L'Institut de recherche en économie contemporaine, l'IREC, ça je vous rappelle que c'est l'Institut de recherche de la gauche, insiste sur le fait que le Québec et le Canada ne sont pas des enfers fiscaux. C'est l'affaiblissement des revenus qui cause la situation budgétaire actuelle et non pas un problème de dépenses, a affirmé quant à lui Robert Laplante, directeur général de l'IREC. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante regroupe est un regroupement de 24 000 propriétaires d'entreprises au Québec et elle propose d'abord de réduire le taux d'imposition sur la masse salariale de 8 à 4 %, une baisse déjà consentie au secteur manufacturier sur 2 ans. Non seulement on taxe la création d'emplois, mais c'est le même taux d'imposition pour une PME au chiffre d'affaires de 100 000 $ que pour une entreprise qui fait des millions, déplore Martine Hébert, vice-présidente de la Fédération, qualifiant au passage la taxe actuelle de régressive. Les PME disent souhaiter utiliser les montants dégagés par une baisse d'impôts pour augmenter le salaire des employés et investir dans de nouveaux équipements. Contrairement à la position défendue par les acteurs du jeu vidéo lundi, je vous rappelle que dans l'industrie du jeu vidéo, les subventions salariales sont assez impressionnantes. Merci, c'est d'ailleurs ce qui fait en sorte que Montréal et Québec se sont positionnés comme des capitales mondiales du jeu vidéo. Donc, contrairement à la position défendue par les acteurs du jeu vidéo lundi, dont l'Alliance numérique et Warner, la Fédération est d'avis qu'une réforme des aides fiscales et des subventions est de mise. Au Québec, il y a presque un crédit d'impôt pour les producteurs de tuques à pompons bleus, ironise Mme Hébert. Elle cite à ce titre un sondage interne indiquant que 78 % des 1031 répondants membres de leur fédération n'avaient pas bénéficié d'un crédit d'impôt au cours des 5 années précédentes. Le sondage date de 2010-2011, mais tant Mme Hébert que Simon Gaudreau, économiste pour l'association, assurent entendre le même son de cloche année après année des propriétaires de PME à propos des crédits d'impôt. On ne dit pas de tout abolir à l'aveugle, mais de laisser aux entreprises le choix de savoir ce qui est bon pour eux, commente Mme Hébert. Les programmes d'aide à l'entrepreneuriat leur paraissent aussi trop nombreux. Ils seraient devenus une véritable industrie en soi. Pendant qu'on distribue de l'argent à une partie seulement des entreprises, on laisse 100 % des entreprises avec le fardeau fiscal le plus lourd au pays, résume Mme Hébert. Cette affirmation fait sursauter Robert Laplante, directeur général de l'IREC. C'est de l'idéologie. Il est contraire au fait de dire que les entreprises canadiennes croulent sous un fardeau intolérable. Et je vous rappelle ici que le fardeau fiscal des entreprises canadiennes est tellement élevé que les entreprises américaines choisissent de s'établir chez nous pour payer moins d'impôts. Dans son mémoire, le think tank de gauche s'emploie plutôt à démontrer que le fardeau fiscal des entreprises a atteint un plafond en 2000 et qu'il a diminué depuis. Les entreprises ne font pas leur juste part, ni les plus riches, affirme M. Laplante, décrivant un déplacement du financement fiscal vers les autres contribuables. L'IREC recommande donc d'ajouter 2 paliers d'imposition pour les plus riches. Dans ce scénario, les personnes ayant un revenu se situant entre 130 000 et 250 000 $ seraient imposées à 28 %. L'imposition passerait à 31 % pour les revenus de 250 000 et plus. Les économistes de l'Institut ont également calculé que, cette année seulement, Québec pourrait aller chercher 78 millions de $ en changeant les modalités des comptes d'épargne libre d'impôt, les fameux CELI. Finalement, M. Laplante s'attaque aux décisions unilatérales d'Ottawa, de déséquilibre fiscal constituant la nature du problème à son avis. La baisse importante des transferts fédéraux en santé laisse notamment un trou de 10 milliards de $ au cours des 10 prochaines années, cette fois selon le ministre des Finances du Québec. Dans une perspective plus globale, l'IREC déplore un glissement de la vision fiscale. Son mémoire note que le gouvernement est passé d'une perception de l'impôt comme contribution nécessaire à l'organisation collective à une vision éclatée où domine l'idée de l'impôt à la carte comme prix du service rendu par le biais de tarifs déterminés. Un sujet qui rejoint un peu le vôtre, surtout quand on décide où l'État doit mettre son profit, son argent. Dans le cas de la cimenterie, voyez-vous, il y a quand même un investissement majeur d'Investissement Québec qui rend le projet possible et qui se fait au détriment des industries déjà implantées. Or, dans la gamme des subventions, c'est souvent le cas. On le voyait aussi la semaine dernière avec l'électricité, les nouvelles industries qui vont arriver, qui vont avoir des tarifs préférentiels. Est-ce que ça va déranger ou pas les gens qui sont déjà en place ici et leur faire une concurrence déloyale? C'est une des questions qu'on soumet actuellement.
Une petite question. Est-ce que l'IREC publie ses études sur un site Internet?
Je crois que oui.
Oui.
s'en va cabane à sucre. Mets tes gamblins, on s'en va boire allègrement. Mets tes chaussettes, on s'en va piler dans la boîte. Ta salopette, on va courtiser la brunette. Sirop d'érable, partout sur la table. Sirop d'érable, sur tes omelettes. Du sirop d'érable, d'en face à ma tante Jeannette. Et manger patate, de la sauce brune à bras, sans diète. Attache ta tuque, on s'en va cabane à sucre. Mets tes gamblins, on s'en va voir grand-maman. Mets tes chouquins, on s'en va virer la baraque. Tant qu'on est autour de la table, on va virer ça en bivouac. Swing la baraque, dans le fond, la bouille d'un bois. Swing la baraque, dans le fond. Swing la catin, dans le fond, la bouille d'un. Swing la grimace, tant qu'il est encore temps.
Attache ta tuque par les Cowboys Fringants. Un choix de Kamal Salifou qui assure la mise en onde de cette émission et les choix musicaux qu'on remercie. Donc, merci Kamal. Je vais vous décrire une scène et vous me dites où ça se passe. Une file de personnes attendent. Elles ont faim, ces personnes, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de sous dans leur poche. Elles doivent manger. Si je vous donne une époque ou un pays, allez-vous me croire? Oh, je vous en donne un. Les États-Unis, aujourd'hui.
Ah. J'ai cru un instant que c'était une scène de la série Desperate Housewives, mais je me suis trompé apparemment. Hein. Oui, mais bon, alors, on connaît le goût de nos chers voisins américains pour le rêve et la standardisation dont il est l'objet. Hein. La liste est connue. On va la rappeler d'ailleurs à l'instant. Mais quand même, si cet inventaire se réduit comme une peau de chagrin, qu'est-ce qui va rester pour éclairer le reste du monde? Bah, peut-être une autre façon de vivre, qui sait. Hein. Ça a beaucoup intéressé Jean-Frédéric Légaré-Tremblay dans Le Devoir du 18 octobre. Et voilà ce que ça donne, une maison à soi, encerclée par une clôture blanche, un chien qui court sur le gazon vert, une voiture...
Deux,
absolument. Des enfants qui vont à l'université. La sécurité, le confort et la promesse d'un avenir encore plus radieux pour ces enfants. Or, ce rêve américain ressemble de plus en plus à un mirage. Prise entre des salaires qui refusent d'augmenter et le coût de la vie sans cesse grimpant, la classe moyenne qui incarne ce rêve mieux qu'aucune autre s'érode. Kim Ozin n'aurait jamais pensé devoir recourir à une banque alimentaire à 54 ans pour calmer sa faim. Mais en ce samedi matin de septembre d'une chaleur tropicale, cette célibataire noire, propriétaire de son bungalow, dont les deux enfants volent aujourd'hui de leurs propres ailes et qui travaille 40 heures par semaine, fait la file à la Houston Food Bank pour remplir son garde-manger. C'est la troisième fois en deux mois qu'elle se rend dans ce parc industriel de la banlieue nord de Houston. La reprise économique, je ne la vois tout simplement pas, lance-t-elle, souriante et assurée malgré tout. Kim Ozin et la quarantaine d'autres bénéficiaires d'aide alimentaire présents ce matin-là sont tous sur le marché du travail. Pour être admissibles, ils doivent présenter une preuve d'emploi ou de rémunération quelconque, c'est la règle. Les heures d'ouverture sont d'ailleurs ajustées aux besoins des travailleurs. Les portes sont ouvertes les samedis et dimanches et la semaine de 15h à 20h.
Vous êtes en train de me dire qu'il y a des banques alimentaires spécialement dédiées aux gens qui travaillent. Ça, c'est américain.
Oui, et c'est pas bon signe.
Ouais.
La banque, oui, comme quoi, de toute façon, le travail, ça vient d'abord, quel qu'il soit. La banque alimentaire d'urgence, comme ils l'appellent, est ouverte depuis 2011 et est attenante à un énorme bâtiment moderne où travaillent 200 personnes à temps plein et jusqu'à 1000 volontaires par jour. C'est un service particulier que la Houston Food Bank offre à cette clientèle. Au cours des 4 dernières années, il y a eu un changement profond dans notre clientèle, explique Terence Franklin, directeur des services à la Houston Food Bank. Avant, les bénéficiaires étaient surtout des sans-emploi ou des gens vivant sous le seuil de la pauvreté, puis les familles de la classe moyenne ont commencé à nécessiter de l'aide. Les choses devenaient difficiles pour elles et nous voulions venir en aide à ce segment mal soutenu de la société. Les gens qui sillonnent les allées dans ce qui a toutes les allures d'une véritable épicerie, les prestataires peuvent ainsi choisir ce qu'ils veulent au lieu de se faire imposer des denrées, sont ainsi soit des « working poor », des travailleurs vivant en dessous du seuil de pauvreté, soit des membres de la classe moyenne inférieure. Un diplôme d'études secondaires en poche, Kim Hossein travaille depuis 5 ans comme concierge dans une école de Houston. Sa paye est majorée de 3% par année, assure-t-elle, mais ne gagne néanmoins qu'un maigre 9$ de l'heure. Sur l'année, le total fait un peu plus de 18 000$. Rien de faramineux, mais tout de même au-dessus du seuil officiel de la pauvreté, 11 670$ pour un foyer d'une seule personne. Ce qui en fait un membre de la classe moyenne inférieure. Les définitions de la classe moyenne varient, mais l'une d'elles consiste simplement à placer sa limite inférieure au seuil de la pauvreté, lequel est modulé en fonction du nombre de personnes dans un ménage. L'hypothèque de son bungalow, situé dans la banlieue nord de Houston, avec ses 2 chambres à coucher, est entièrement payée. « Dieu merci !» lance-t-elle en poussant un soupir de soulagement. La première de ses filles est déjà sur le marché de l'emploi et l'autre fréquente le collège, dont les frais sont principalement couverts par des bourses d'études, assure la mère. Mais la hausse du coût de la vie a tout de même eu raison de sa maigre marge de manœuvre financière. Un exemple. Même dans la capitale mondiale du pétrole, où un litre d'essence coûtait environ 75 cents le litre lors du passage du devoir, la hausse des prix à la pompe depuis quelques années a fait gonfler la facture des résidents de cette ville étendue où la voiture règne en maître. Dans l'ensemble, Houston est relativement abordable. Le coût de la vie dans la 4e agglomération américaine n'a rien à voir avec celui de New York, de Los Angeles ou de Chicago. Pour conserver un rythme de vie équivalent, un salaire de 50 000$ à Houston doit passer à 58 569$ à Chicago, 65 823$ à Los Angeles, 11 064$ à Manhattan.
Oui,
oui, non.
Oui, je me disais aussi.
Oui, oui, bah, j'étais rattrapé par le rêve américain, qu'est-ce que vous voulez, c'est terrible. La ville est aussi en plein développement grâce au boom du pétrole de schiste, dont le Texas est aujourd'hui le principal producteur aux États-Unis. Et alors que des villes comme Philadelphie, Phoenix ou Chicago ont perdu des emplois depuis 2008, Houston en a gagné, tenez-vous bien, 289 000. Si vous ne réussissez pas ici, vous avez des ennuis. Houston est un bargain, confie Buddy Merrow, un célibataire de 61 ans venu s'inscrire à la banque alimentaire d'urgence un vendredi soir après sa journée de travail. Pourtant, la Houston Food Bank est la plus grande banque alimentaire au pays. Et selon ses statistiques, les 2/3 des familles avec enfants admissibles à leur aide ont au moins un parent qui travaille. Qui plus est, la partie nord-ouest de Houston affiche l'une des plus fortes concentrations aux États-Unis de familles qui reçoivent des bons d'alimentation du gouvernement fédéral, en dépit du fait qu'au moins un adulte occupe un emploi. C'est très difficile de croire qu'une personne puisse joindre les deux bouts avec le salaire minimum, 7,25$ au Texas. C'est pas lourd, hein? Affirme Buddy Merrow en remettant un pot de cœur de palmier sur une étagère. « Je n'ai jamais mangé de ce truc-là. Je ne vais certainement pas commencer maintenant », poursuit-il en riant. L'important, c'est peut-être le mot « en riant » pour finir cet article, mais je trouve que ça remet un certain nombre de pendules à l'heure et pas des pendules qui sont très en avance sur leur temps. Hein.
On va le voir tout à l'heure, mais ça participe d'un problème grave. Quand on pense que des gens qui travaillent 40 heures par semaine n'arrivent pas à se nourrir convenablement, et dans le cas de votre premier exemple, une dame qui avait déjà son hypothèque payée,
ouais.
Ça en dit beaucoup, beaucoup sur ce qui s'est vu aux États-Unis.
Dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams.
quelques brèves avant la pause de mi-émission et je commence immédiatement parce que je veux rester aux États-Unis où le magasinage des fêtes va commencer. C'est complètement à rebours de votre sujet. Pour vous donner une idée de l'ampleur que ça prend, parce que ça commence à peu près à l'Action de grâce américaine à la fin du mois de novembre, FedEx se prépare à embaucher 50 000 travailleurs pour assurer les livraisons du temps des fêtes. Vous trouvez que c'est beaucoup? Eh bien, dites-vous que Amazon, elle, va en embaucher 80 000. Et UPS, qui a eu de la difficulté l'an passé à honorer toutes ses commandes à temps pour Noël, va en embaucher 95 000. Tout ça pour assurer le rôle du Père Noël. Voilà ce que c'est que la laïcité.
Parfait. Moi, j'ai une idée de cadeau pour vous, François. C'est peut-être même utilisable en moto. C'est un parapluie à air. C'était créé par des Chinois. Ils l'appellent le parapluie invisible. C'est petit comme un mini-ventilateur. Eh bien, c'est juste un manche. Et puis, il y a un moteur qui expulse l'air. Et contrairement au parapluie ordinaire, cet appareil n'est doté d'aucun support qui s'ouvre, qui se referme ou qui s'envole sous le vent et la pluie. Alors, on nous assure que le moteur est assez puissant pour enlever toute la pluie au-dessus de votre tête, même une pluie violente. Je vais vous l'offrir pour Noël.
Je veux l'essayer. Grande nouvelle, la Terre a tourné, voyez-vous, depuis 1979. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1979... Les étudiants iraniens s'emparaient de l'ambassade américaine, prenaient le personnel en otage. Et depuis ce temps-là, il y avait le grand froid entre les États-Unis et l'Iran. Depuis, l'Iran dit « je vais faire une bombe atomique », les États-Unis ont dit « fais pas ça ». Et parce qu'ils ont décidé de ne pas la faire, eh bien les États-Unis ont assoupli un peu leurs sanctions. Et pour la première fois depuis 35 ans, donc, Boeing fait des ventes sur le territoire iranien. Ils ont vendu des pièces parce que les avions qui étaient là il y a 35 ans ont besoin de pièces, semble-t-il, maintenant. Ça m'inquiète un peu, d'ailleurs. Alors voilà, donc Boeing est de retour en Iran.
J'étais intéressé par un arrêt de la Cour suprême du Canada, un jugement majoritaire à 6-1, qui a statué que le recours à l'écoute électronique ne porte pas atteinte à la vie privée. Alors, c'est un peu effrayant. Bon, alors, en même temps, c'est pour lutter contre les cartels, le cartel de l'essence, mais enfin, c'est à double tranchant, cette histoire.
Et pour finir, une autre idée de cadeau avant Noël, si vous voulez acheter une pépite d'or à l'être aimé, il y en a une qui va être mise en vente sur la côte ouest. C'est une pépite de 6 livres qui a été trouvée dans un parc public. On ne sait pas où exactement parce que la personne qui l'a découverte voulait la garder, bien sûr. Une pépite de 6 livres qui pourrait valoir jusqu'à 350 000 $ en vente. On se retrouve tout de suite après la pause.
Écoutez Kiosque Magazine.
On est de retour donc pour la deuxième demi-heure et je commence en vous parlant de Janet Yellen. Janet Yellen qui est la présidente de la Fed et ça rejoint votre sujet de tout à l'heure. Un texte qui est paru dans le Devoir du 18 octobre est intitulé « Janet Yellen pose la question, peut-on parler d'égalité des chances devant tant d'inégalités de revenus? » Washington. La présidente de la Banque centrale américaine, la Fed, Janet Yellen, s'est déclarée vendredi très inquiète du creusement constant des inégalités aux États-Unis qui atteignent un sommet depuis le début du siècle dernier. L'étendue de l'accroissement constant de l'inégalité aux États-Unis m'inquiète beaucoup, a déclaré la patronne de la Fed dans un discours prononcé à Boston et consacré au sujet lors d'une conférence économique vendredi. Je pense qu'il est temps de s'interroger sur le fait de savoir si cette tendance est compatible avec les valeurs d'égalité des chances qui sont enracinées dans l'histoire de notre société. Madame Yellen, qui n'a pas évoqué vendredi la politique monétaire ni les turbulences sur les marchés financiers, a déjà à plusieurs reprises depuis sa prise de fonction en février mis fortement l'accent sur les aspects sociaux de la lente reprise économique aux États-Unis. Son premier grand discours en tant que présidente de la Réserve fédérale au début de l'année était intitulé « La douloureuse et l'entreprise pour les travailleurs américains ». Au sein du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, Mme Yellen, 68 ans, est connue comme une colombe, décrivant dans le langage de la Fed les responsables soucieux d'abord de lutter contre le chômage plutôt que comme un faucon préoccupé en premier lieu par l'inflation. Le creusement des inégalités a recommencé pendant la reprise économique, alors que le marché boursier, a rebondi, que la croissance des salaires a été faible et que la hausse des prix des maisons n'a pas restauré le patrimoine perdu pour une grande partie des ménages, a averti Mme Yellen à Boston. Selon elle, les inégalités des revenus et du patrimoine aux États-Unis ont désormais quasiment atteint un sommet depuis un siècle. Après l'éclatement de la bulle financière et immobilière en 2008, les États-Unis ont glissé dans la récession jusqu'en juin 2009. Depuis, une modeste reprise s'est lentement installée. S'appuyant sur les données d'une vaste étude de la Réserve fédérale publiée tous les trois ans, Mme Yellen a rappelé que les revenus moyens des 5 % des ménages les plus riches ont grimpé de 38 % entre 1989 et 2013. En comparaison, les revenus des 95 % des ménages restants n'ont augmenté que de 10 %. La distribution des richesses est encore plus inégale que celle des revenus, en outre insisté la présidente de la Fed. Les 5 % des ménages américains les plus aisés détenaient 54 % de toute la richesse en 1989. Cette part a grimpé à 63 % en 2013. L'année dernière, seulement 1 % de toutes les richesses aux États-Unis étaient détenues par la moitié des ménages situés dans la moitié basse de l'échelle. Je répète le chiffre, 1 % de toute la richesse est la propriété de 50 % de la population. C'est quand même assez angoissant. Évoquant la valeur des actions, obligations et autres parts de fonds communs de placement, Mme Yellen a souligné qu'à eux seuls, 5 % des ménages les plus riches possédaient les deux tiers de tous ces actifs financiers. Pour Arm Bandos, économiste en chef pour les États-Unis chez UniCredit, le sujet abordé par Mme Yellen pourrait se révéler bien plus important pour l'avenir de l'économie américaine et des économies avancées, même si les marchés qui espéraient recueillir des indices sur l'orientation de la politique monétaire vont se montrer déçus. Sans offrir de solution à ces inégalités grandissantes, doublées d'un net ralentissement de l'ascension et de la mobilité économique, Mme Yellen a mis en avant l'importance de l'éducation et dénoncé les dysfonctionnements de son financement dans le pays. Comme d'autres responsables financiers américains récemment, elle s'est inquiétée du fardeau de l'endettement étudiant, alors que la dette étudiante a quadruplé en 10 ans pour dépasser les 1 000 milliards de dollars. Concernant l'école publique, Mme Yellen a relevé que les États-Unis, et écoutez bien ça, étaient une des rares économies où l'on dépense moins pour l'éducation des enfants à modestes revenus que pour celle des enfants venant de ménages aisés. Même l'éducation publique, finalement, est biaisée en faveur des familles les plus aisées. C'est assez angoissant, mais je trouve intéressant qu'on associe finalement ce problème-là et finalement une valeur américaine de base, qui est la possibilité de s'enrichir, la possibilité de grandir dans un système économique. Bon, et votre texte et le mien laissent entendre que ça devient de plus en plus difficile.
Oui, mais ce que je trouve troublant, c'est que les études se multiplient et que les solutions, elles, se raréfient. En tout cas, on en entend peut-être moins parler que les états des lieux. Il faudrait peut-être commencer à réagir.
À venir. Ah, devinez quoi? En Chine aussi, il y a de l'hommerie. Il semblerait que la corruption y fasse un malheur également, mais il y a corruption et corruption, semble-t-il.
Écoutez, François, cette émission est désespérante, comme toutes celles que nous faisons, puisque nous parlons d'économie. Alors moi, je suis allé chercher une grande respiration chez Shakespeare pour introduire le sujet. Ça fait toujours beaucoup de bien. Et donc, je vous la cite. Ah, si les empires, les grades, les places ne s'obtenaient pas par la corruption, si les hommes purs n'étaient achetés qu'au prix du mérite, que de gens qui sont nus seraient couverts, que de gens qui commandent seraient commandés. Ah, ça fait du bien. Bon. Alors, c'est merveilleux de s'indigner en littérature, mais c'est plus difficile d'affronter le réel. Alors, surtout en Chine, hein, c'est ce que vous sembliez dire. Et c'est ce qui a semblé frapper également un monsieur qui s'appelle Fan Yangyang. Il me pardonnera, j'espère. Il est exilé aux États-Unis, il écrit dans le New York Times et ça a été repris par Courrier International le 20 octobre. Au début du mois de septembre, 8 personnes travaillant pour le site chinois d'actualité économique 21 Shiji Wang, probablement 21, étaient arrêtées et accusées d'avoir reçu des pots de vin de la part de sociétés en difficulté en échange de reportages flatteurs. Le scandale a pris de l'ampleur avec l'arrestation à la fin du mois du rédacteur en chef et du directeur général de ce 21, je ne vous dis plus l'intitulé chinois, c'est trop compliqué, on va l'appeler 21, vous comprenez de quoi on parle. Le journal, et ils ont un journal qui est associé au site et qui s'appelle 21st Century Business Herald. Alors, à la mi-octobre, on avait placé 25 personnes, tenez-vous bien, en détention criminelle. Selon les médias officiels chinois, les dirigeants du site avaient passé des accords secrets avec plus de 100 sociétés et reçu plusieurs centaines de millions de yuan. Alors, en gros, vous enlevez un zéro pour convertir, ça vous donne plusieurs dizaines de millions de dollars. Les médias d'État se sont empressés de qualifier les intéressés de brebis galeuses et de les accuser de salir la réputation de toute la profession. Pour la télévision publique, il s'agit de moutons noirs qui mettent en péril tout le troupeau. Le fait de payer pour obtenir une couverture médiatique ou étouffer certaines informations se répand en Chine, comme d'autres formes de corruption. Ce procédé, qu'on appelle joliment le journalisme de l'enveloppe rouge. Parce que vous savez, traditionnellement, l'enveloppe rouge qui contient de l'argent, c'est ce qu'on vous donne au moment des fêtes. Donc elle continuera à se propager tant que les autorités ne se décideront pas à le traiter comme le symptôme d'une infection qui touche toute la société. Ce phénomène a ses racines dans le changement rapide du paysage médiatique chinois. Avant 1978, tous les médias étaient la propriété du gouvernement qui les finançait. Pour faire carrière, il fallait avant tout avoir un parcours politiquement solide.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'enveloppe rouge dans ce système-là, mais il y a la prison pour ceux qui ne savent pas.
Oui, absolument. Excusez-moi, c'est probablement l'allergie à tous ces commentaires qui se déclarent. Je vous promets que c'est le dernier. Pour faire carrière, donc, il fallait avoir un parcours politiquement solide. Presque tous les journalistes travaillaient sous la supervision et souvent en fonction des indications explicites des bureaux de la propagande.
Mmh. Et ça, c'est pas de la corruption.
Et puis attendez, propagande et corruption, ça ne peut pas marcher ensemble. Ça se saurait. Alors, en échange, eh bien, on avait la sécurité d'un emploi de fonctionnaire. Ah, c'est bien. Sécurité de l'emploi et corruption aussi, ça marche ensemble. C'est incroyable le nombre de binômes qu'on peut faire. Au début des années 90, la libéralisation a provoqué une explosion des médias. On a parlé de plus grande liberté de la presse, du moins de forme. Mais le changement le plus concret s'est produit avec la réforme du recrutement. Le parti n'avait plus les moyens de gérer les organes d'information comme auparavant. On a commencé à recruter des journalistes sur la base de contrats qui ne contenaient pas de garantie. Alors depuis quelques années, les organes de presse, à part ceux du parti, tout le monde connaît le Ranim Ribao, enfin vous le connaissez peut-être, eh bien ne peuvent survivre que s'ils attirent les annonceurs, parce que le gouvernement ne les subventionne plus. Et évidemment, la multiplication des médias sociaux a encore intensifié la concurrence. La censure, elle est omniprésente, quoique un peu irrégulière, mais elle fait évidemment que les organes de presse peuvent difficilement miser sur ce qu'ils publient pour l'emporter. C'est une libération asymétrique, économique mais pas idéologique, et elle a rendu les journalistes plus sensibles aux scènes de la corruption. En 2002, deux journalistes de l'agence Xinhua ont accepté des fortunes pour dissimuler des accidents survenus dans les mines de charbon.
Ce qui me semble déjà beaucoup plus grave que de décider que je parle en bien de quelqu'un.
Absolument, parce que si les journalistes commencent à accepter de l'argent pour même pas désinformer, mais ne pas informer, la pente devient vraiment glissante. Alors, en 2009, 10 journalistes ont été accusés d'avoir touché plus de 200 000 dollars pour ne pas parler d'un accident minier qui avait fait des dizaines de morts. Un journal d'information travaillait il y a 40 ans, main dans la main avec le bureau de la propagande du parti, qui était son principal bienfaiteur. Aujourd'hui, il n'y a pas de distinction entre l'aspect éditorial et l'aspect économique de l'activité. Le journalisme, c'est d'abord un moyen de servir les objectifs de celui qu'il finance, plus que le vecteur d'informations fiables. Qu'est-ce que c'est que ce monde où tout devient commerce? Certains médias ont reconnu avoir eu des cas de corruption, mais aucun n'a osé en parler comme un phénomène culturel. Aucun n'a réalisé de grandes enquêtes sur ce qui se passait dans les autres publications. La supervision est en général plus laxiste dans les publications financières que dans les publications politiques. Le site 21 opère depuis 2010 sous l'égide de son journal, qui s'appelle donc le 21 Xi Ji Jing Jing Daobao.
À vos souhaits.
Oui, j'avais éternué par avance. Donc il était en bonne position pour éviter les risques et profiter des occasions. Il était mollement supervisé et avait un besoin pressant de récolter de la publicité. Il a donc repéré, avec des cabinets de conseil, tenez-vous bien en communication, des sociétés soucieuses de leur image qui étaient sur le point d'entrer en bourse et l'a offert d'enterrer les informations défavorables à leur égard, moyennant l'achat de contrats publicitaires. Il est pratiquement inévitable que les exigences du marché associées à une déontologie déficiente entraînent ce genre d'arrangement. Dans sa course à la croissance, la Chine a détruit le filet de sécurité qui garantissait une certaine sécurité à la profession. À cet égard, le scandale de 21 n'est pas seulement le fait de certains journalistes, ni même uniquement du journalisme. Le journalisme de l'enveloppe rouge a évolué en symbiose avec un gouvernement dont la légitimité dépend en partie de l'exercice d'un contrôle dont il n'a plus les moyens. J'ai commencé avec Shakespeare. Il me vient dans la mémoire, je le cite de mémoire, une citation de Champfort. Vous n'allez pas aimer ça, François, parce qu'elle n'est pas politiquement correcte. Mais plus les hommes s'assemblent, plus ils sont petits.
Ah, c'est très possible. Ouais. Moi, j'aurais le goût de citer, je ne sais pas, Berlusconi ou...
Un de vos maîtres, je crois.
Ou Sarkozy. Oui. Ou encore, tiens, pourquoi pas, Pierre-Carl Péladeau sous peu. Enfin, il semblerait que ce soit universel. Et je vous rappelle entre-temps qu'à l'Assemblée législative chinoise, il y a beaucoup, beaucoup de millionnaires et de milliardaires dont on ne sait pas comment ils ont fait leur argent. La pièce qu'on vient d'entendre, et c'est une première en ce qui me concerne, s'appelle « La paix et la liberté ». Et devinez quoi? Je vous le donne en mille, c'est interprété par le chœur de l'Armée rouge. « La paix et la liberté » par l'Armée rouge, il faut le faire. Mais ça a introduit quand même parfaitement mon prochain sujet. Parce que, évidemment, je vous avais dit que je parlerais de consommation automobile. Si j'étais un être prévisible et responsable, je vous parlerais de consommation d'essence par les automobiles. Mais j'ai décidé à la dernière minute de changer mon sujet et de vous parler de Russie. Voilà, alors je le fais... Sans même un remords. Le texte s'intitule, oui, « La Russie s'enfonce avec le pétrole ». C'est un texte de Richard Dupol qui a été publié le 20 octobre. Fuite des capitaux. Le rouble a un creux historique, inflation élevée, économie amorphe. La chute des cours du pétrole sur fond de crise ukrainienne porte un coup dur à la Russie et son président Vladimir Poutine. Si les automobilistes en Amérique du Nord se réjouissent de la chute spectaculaire des prix du pétrole cet automne, la Russie et son impétueux président, Vladimir Poutine, ne la trouvent pas drôle. Lorsque le Kremlin a envoyé des soldats russes en Ukraine, début du mois de mars, le brut flottait confortablement au-dessus de 100 $ le baril. De véritables munitions pour un belliqueux chef d'État riche en pétrole. Or, au milieu de la semaine dernière, le pétrole pataugeait péniblement au-dessus des 81 $ américains, un plongeon de 25 % depuis son sommet sur un an, qui était de 107 $. De l'avis des experts, c'est un coup très dur pour l'État russe qui retire la moitié de ses revenus des ventes de brut et de gaz naturel. La moitié, donc, j'avais dit le quart or, donc. À tel point qu'un proche de Poutine, le ministre de l'Économie, Alexei Ulyukayev, a craqué jeudi en s'alarmant de la situation explosive de l'économie russe. Bref, la panique gagne le Kremlin. Et pour cause. La glissade de l'or noir et les sanctions occidentales sur fond de crise ukrainienne ont grandement affaibli la Russie, et ce, en quelques mois seulement. La semaine dernière, la devise russe a franchi le seuil des 40 roubles pour 1 $ américain, contre 33 pour 1 il y a un an. C'est un creux historique pour cette monnaie qui a subi un recul comparable par rapport à l'euro. La chute des cours du brut, des nouvelles inquiétantes de l'Ukraine et la crainte de nouvelles sanctions font pression sur le rouble, confirme dans une note financière Natalia Orlova, économiste chez Alpha Bank de Moscou. Le plongeon du rouble accentue la hausse des prix en Russie, surtout les importations qui coûtent jusqu'à 20 % plus cher aux Russes s'ils arrivent à trouver les biens étrangers épargnés par l'embargo décrété par Moscou sur plusieurs produits occidentaux. Déjà, l'inflation pointe son vilain nez et passerait au-dessus des 8 % d'ici la fin de l'année. Un niveau intolérable pour les autorités bancaires, selon le Fonds monétaire international. Aussi, les milieux d'affaires sont très inquiets. Les analystes de VTB Capital, une grande banque d'affaires russe, redoutent la réaction des ménages. Ces derniers pourraient être tentés de convertir leurs économies en devises étrangères, au risque de fragiliser le système bancaire. Pourtant, la Banque centrale russe a déployé des moyens énormes pour freiner la glissade du rouble, dépensant pas moins de 55 milliards de dollars américains depuis l'été pour racheter la monnaie nationale, mais rien n'y fait. Ses réserves ont fondu de 10 % à 450 milliards de dollars américains, selon la banque BNP Paribas, ce qui est un bon coussin. Toutefois, les investisseurs craignent le moment où la Banque centrale russe cessera d'intervenir sur le marché des changes, ce qui pourrait provoquer un décrochage de la monnaie russe. Sans compter que la fuite des capitaux hors de la Russie, qui a débuté dès les premières frictions en Ukraine, s'accélère et atteindrait les 100 milliards de dollars cette année, de l'avis même de la Banque centrale russe. La Société générale de Paris avance plutôt que 125 milliards américains ont été sortis promptement du pays en quelques mois. Outre les géants énergétiques Gazprom et Rosneft qui ont d'amples liquidités, les sociétés privées russes peinent à trouver du financement en raison des restrictions financières occidentales. Ces mêmes entreprises doivent rembourser 47 milliards de dollars américains d'ici la fin de 2014 à leurs créanciers internationaux, calcule l'agence Bloomberg. Seule la Banque centrale peut donc les aider. Dans ce contexte, le FMI vient de réduire ses prévisions de croissance de l'économie russe à 0,2 % cette année et à 0,5 % en 2015. Ça, conjugué avec une inflation au-dessus de 8 %, c'est assez catastrophique puisqu'on n'a à peu près rien pour relancer l'économie. Une catastrophe pour une vedette du BRIC habituée à une croissance de 6 ou 7 % il n'y a pas si longtemps. Les tensions géopolitiques accroissent les incertitudes et pèsent sur la confiance et l'investissement, avertit le FMI, dont les projections pourraient encore être abaissées si le pétrole reste à son niveau actuel. Seule bonne nouvelle, les recettes de l'État sur les ventes d'hydrocarbures sont en partie garanties en dollars américains, ce qui atténuera un peu le choc sur les finances publiques. Or, il est très probable, oui, que la Banque centrale russe augmente son taux directeur pour rendre les placements en roubles plus attractifs, un taux qui est déjà supérieur à 8 %. On risque ainsi de pénaliser encore l'investissement, les consommateurs et la croissance. Bref, l'économie russe est au bord du précipice, les pieds dans une grosse flaque de pétrole.
Oui, et le salut est dans l'augmentation du prix du pétrole, comme d'habitude.
Angoissant, non?
Thank you.
Alors, quelques brèves, et je vous propose de retourner à Montréal pour nous changer les idées. Ce sera plus exotique que tous les sujets que nous avons mentionnés. Figurez-vous que la STM, la Société de Transport de Montréal, le métro que nous prenons tous les jours, eh bien, va introduire l'accès au Wi-Fi à l'intérieur. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est la promotion de ce projet, ce n'est pas pour vous permettre de recevoir vos SMS ou de téléphoner à vos copains ou à vos relations d'affaires, mais c'est pour communiquer avec elles et pour signaler des incidents éventuels. Il n'y en a jamais, hein, le métro.
Le métro de Montréal est sûr. Mais par rapport à celui de Paris, oui, beaucoup.
Ça, c'est sûr.
Tout à fait. Bon, on savait déjà que le projet d'oléoduc qui doit traverser le territoire du Québec pour aller livrer son pétrole à l'autre bout du Nouveau-Brunswick ne va pas nous rapporter grand-chose en pratique. Mais saviez-vous qu'il pourrait nous coûter quelque chose? C'est... Gaz Métro qui a sonné des cloches cette semaine dans un témoignage en commission, la présidente de Gaz Métro signale que sur 1000 km, l'oléoduc en question en Ontario va prendre une conduite de gaz existante et la transformer en conduite pour des sables bitumineux. Et il va remplacer la conduite de gaz par une autre conduite, mais plus petite, ce qui veut dire moins de livraison de gaz à Montréal. Or, en période de pointe, la conduite actuelle est déjà saturée. Ça veut dire qu'éventuellement, on pourrait manquer de gaz naturel sur le marché québécois ou sur le marché ontarien du gaz, ce qui ferait monter le prix. Et en bout de piste, pour permettre à du pétrole albertain de traverser tout le territoire avec tous les risques que ça incombe et d'être livré en Atlantique, eh bien, on pourrait payer notre chauffage plus cher en bout de piste.
Je trouve ça aussi courtelinesque que préoccupant. Alors, pour rester dans le même registre, parlons un peu du forage de Cacouna. On en a souvent parlé ici. Eh bien, le ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, quel bel intitulé, eh bien, il juge que la proposition reçue mercredi soir de TransCanada est insatisfaisante. Par conséquent, le promoteur n'est toujours pas autorisé à reprendre ses travaux exploratoires. Espérons que ça durera aussi longtemps, dans le genre les 25 ans du barrage du Nord devant la Cour suprême.
La SQ a arrêté tout un groupe de fraudeurs. En fait, vous connaissez tous ce genre de petit commerce où on peut encaisser des chèques sans avoir de compte, moyennant une commission. Eh bien, à grande échelle, il y a des entreprises qui encaissaient tous leurs revenus dans ce type d'entreprise-là, ceci afin d'échapper à tous les radars du fisc. On parle d'une fraude fiscale qui aurait fait en sorte que 23 millions de dollars de recettes d'impôts, donc à peu près 90 ou 190 millions de dollars de revenus bruts des entreprises, auraient été soustraits à l'économie officielle contre 2 à 4 de commission. Alors, l'ASQ a arrêté 17 personnes pour ça. Bravo, l'ASQ, tiens.
On parlait la semaine dernière de la réforme Barrette et de la façon dont la presse s'intéressait à ces contradictions. Ben, il semble que les syndicats sont en train de rejoindre les journalistes parce que la grogne s'intensifie et il y a des promesses de manifestations un peu lourdes cet automne. Ils se sont réunis en Conseil fédéral extraordinaire, hein, les 350 syndicats de la Fédération de la Santé, et ils ont adopté un plan d'action qui qualifie eux-mêmes de musclé contre la réforme du réseau. Attention, attention, Monsieur Barrett.
Une petite nouvelle cocasse, tiens. À New York, le client d'un restaurant a voulu payer sa commande et sa carte n'est pas passée. Alors, il aurait déclaré « Heureusement que ma femme Michelle a sa carte, puisque le président Obama, sa carte ne fonctionnait plus. » Voilà, c'est comme ça. Donc, la carte du président ne fonctionnait pas.
Oui, bon. Il faut dire qu'il joue souvent des cartes différentes. Lucar sur le podium. J'étais surpris d'apprendre ça. Lucar, c'est l'Université du Québec à Rimouski. Eh bien, tenez-vous bien, elle est au deuxième rang du classement des meilleures universités du Canada au chapitre de la recherche qui offre majoritairement des programmes de premier cycle. Donc, c'est un signal assez fort et les professeurs de l'UQAR sont donc reconnus par leurs pairs comme parmi les premiers dans leur domaine. C'est plutôt bien.
Très bonne nouvelle. J'en ai une autre de bonne nouvelle qui nous vient du gouvernement fédéral et en environnement. Et elles sont rares, les bonnes nouvelles qui viennent du gouvernement fédéral en environnement. Alors, je vous la donne avec joie. Peut-être que ça en cache une mauvaise, je vous le dirai ensuite. Dans la mer de Beaufort, on le sait, il y a le réchauffement de la planète. La mer de Beaufort, qui est la mer qui se trouve au nord du territoire du Nord-Ouest, Nord-Ouest du Canada, si vous voulez, qui est dans nos eaux territoriales. La mer de Beaufort, donc, est de plus en plus libre de glace et les espèces halieutiques, c'est-à-dire les espèces qu'on pêche, remontent tranquillement dans l'océan vers le nord puisque l'eau se réchauffe. Alors, le gouvernement fédéral vient de décider que non, il n'y aurait pas de pêche additionnelle de pratiquer dans la mer de Beaufort tant qu'on n'aura pas fait des évaluations environnementales poussées et que s'il y avait de la nouvelle pêche ouverte, bien, elle serait d'abord au bénéfice des Autochtones, des Inuits qui vivent dans la région. C'est une excellente nouvelle. Le seul truc qui m'inquiète vraiment, c'est qu'on pourrait vouloir écarter les pêcheurs pour éventuellement permettre l'exploitation pétrolière. Mais ça, c'est un autre débat.
Encore des nouvelles chinoises. On parlait de la corruption. Eh bien, il faut revenir sur la croissance parce que les chiffres du troisième trimestre sont sortis et ce sont les plus bas depuis 5 ans. Hein. La croissance a fortement ralenti. Et vraiment, vraiment, moi, je vous le dis, je vous le prédis, l'avenir de la planète, c'est pas la Chine, sûrement pas. C'est pas la Chine, c'est l'Afrique. Il faudra se le rappeler.
En début dernière nouvelle, il y a une pénurie actuellement de peluches à l'image du virus d'Ebola. Il y a une entreprise américaine qui vend des peluches à l'image de bactéries et de virus, et le modèle Ebola est complètement sold out, dis-je en très, très, très mauvais français. Vous l'entendez, l'indicatif musical qui nous signale que c'est déjà la fin de cette émission. On remercie Kamal Salifou à la mise en onde. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. On vous invite à demeurer à l'antenne pour d'autres nouvelles.
Au revoir à tous.